Nicole Choucroune, Stéphane Pastor et Christophe Brouillas de la compagnie L'Entreprise sont les trois protagonistes de La Table du Fond. Spectacle écrit par François Cervantes, un spectacle créé et joué en ce moment dans les collèges des Bouches-du-Rhône. La Table du Fond, c'est ce dont il est question dans ce troisième bivouac proposé par La Grenouille à François Cervantes et à la compagnie L'Entreprise.
Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros.
Moi, je suis sa mère, j'ai peur qu'il ne parle pas assez. Je n'avais jamais pensé que c'était une personne du silence, enfin, une personne comme vous dites. Je ne sais plus, je suis fatiguée, c'est beau.
Une personne qui fabrique du silence.
Moi, le silence me fait peur. Je serais capable de parler à un mur.
Oh, il ne faut pas avoir peur du silence. Avant de parler, votre enfant a tété sa mère.
Mm-hmm.
Après seulement, il a parlé.
Mm-hmm.
Et puis, vous lui avez appris à lire.
Mm-hmm.
Et c'était du silence à nouveau. Vous avez dû faire ça bien.
Je ne sais pas.
Non, mais vous en pensez quoi?
Je ne sais pas.
Non, mais donnez-moi votre avis.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
Nage, 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 les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros.
Franck évite le contact avec les autres. Il craint la violence des rapports humains, vous êtes d'accord avec moi?
Je ne sais pas.
Moi non plus.
Nage, 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 les petits poissons dans l'eau nage aussi bien que les gros.
Je n'ai pas assez de temps pour m'occuper de lui, je suppose que c'est ça, n'est-ce pas?
Je ne sais pas.
Non, mais vous en pensez quoi?
Je ne sais pas.
Non, mais donnez-moi votre avis.
Je ne sais pas.
Arrêtez de dire que vous ne savez pas.
Vous voulez que je lui parle demain?
Non, surtout pas. Cela fait 3 nuits que je ne dors plus, je travaille, je rentre tard. Je ne le vois pas assez, n'est-ce pas?
Je ne sais pas.
Oh, arrêtez de dire que vous ne savez pas!
Chut, madame!
Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros.
Le soir est en train de tomber. Une salle de classe vide. Le mur côté couloir est aveugle. Côté cour, 2 fenêtres donnent sur l'extérieur. Une estrade, un bureau, un tableau noir. La porte s'ouvre et une femme entre en boitant. Un de ses talons est cassé et sa cheville est enflée. Elle a la quarantaine. Elle pleure.
Le spectacle La Table du Fond commence avec ses didascalies. C'est l'histoire d'une femme qui est à la recherche de son fils, qui va au collège pour avoir des renseignements. Son fils ne rentre plus à la maison depuis 3 nuits, 3 jours et 3 nuits. Et elle s'aperçoit qu'il est resté au collège, qu'il vit là. Donc elle essaye d'avoir plus de renseignements sur lui. Elle rencontre plusieurs personnages, le principal, le concierge, le prof d'histoire géo, la prof de maths, le prof de français, qui chacun donne une vision de son fils, qui s'appelle Franck. Et elle reconstruit un petit peu la relation qu'elle a avec son fils au fur et à mesure de toute la durée du spectacle. Elle se rend compte aussi qu'elle n'a pas forcément vécu la vie qu'elle voulait vivre et elle a une prise de conscience au fur et à mesure. C'est une manière de revenir à l'école, une manière de comprendre quelle a été son enfance à elle, sa scolarité à elle. Et ce fils qu'on appelle Franck n'apparaît jamais dans le spectacle. Il cristallise un peu tous les fantasmes de toutes les personnes qui l'entourent.
Le collège, le théâtre, le collège dans le théâtre dans le collège, c'est une drôle d'expérience. Nous avons déjà joué la table du fond plus d'une vingtaine de fois. On a commencé le 3 mars très exactement et on tourne dans les collèges du département des Bouches-du-Rhône pour l'instant. Chaque jour, nous avons découvert une nouvelle classe avec la même urgence et la même excitation. Installation en lumière et son, légère modification de l'espace, conquête du lieu. C'est un moment important de transition pour nous, enrichi du plaisir de préparer une surprise pour les élèves que nous allons rencontrer l'heure suivante. Puis ces élèves donc se sont installés dans leur lieu habituel d'étude, devenu à leur insu notre espace de jeu. Et pour nous aussi, il y aura de la surprise. Première réaction, premier petit rire de trouble, parce qu'ils n'acceptent pas si vite de ne pas maîtriser cette nouvelle réalité. À nous de la faire glisser immédiatement dans la fiction, à nous de trouver instantanément la pensée qui vide la classe, pour embarquer immédiatement l'ensemble du convoi. Les premières minutes sont électriques ou assourdies ou batailleuses. C'est comme si nous nous disputions le terrain, le lopin de terre, mais le conflit n'est pas belliqueux, chacun doit simplement rester réel. Et puis l'histoire de toute façon est plus forte, tellement surprenante qu'il ne leur est très vite plus possible de s'en défendre. Ils sont plongés dans cette proximité, mais ils acceptent aussi d'être soi-disant absents. Pour moi, c'est une sensation exceptionnelle, parce qu'à chaque fois, je croise des énergies différentes, puissantes et groupées. C'est un perpétuel apprentissage, comme par hasard. Je canalise. Cette classe, où je suis en train de jouer, de travailler, lieu consacré à l'enseignement des disciplines scolaires, devient donc un lieu de rencontre, d'expérience et de jeu. D'un seul coup, il se passe quelque chose de bizarre pour les élèves. Il y a des vibrations inhabituelles dans la salle de classe. La vie s'infiltre comme de l'eau dans une fissure. C'est de l'humain qu'on parle, de passion, de sentiments. Les acteurs s'exposent et se vautrent dans le rire et les larmes, s'écoutent et se parlent devant tout le monde. Il n'y a pas d'écran, pas de rideau, pas d'obscurité dans la salle pour rester dans l'ombre. En fait, tout le monde est à la vue de tout le monde. Pas de protection. Et chacun tient sa place, avec plus ou moins de souplesse et de dignité d'ailleurs. C'est comme un cours d'émotion. On n'a jamais vu ça, en tout cas au collège. Et même si la réalité tente à chaque fois de nous rattraper, par exemple, la sonnerie de l'interclasse sonne souvent avant la fin de l'histoire, finalement elle s'intègre. Si les voix d'adultes ou d'enfants de la classe d'à côté traversent les murs souvent trop fins, il faut le dire, ils se fondent tout de même dans la fiction. Les élèves semblent tout à fait adaptés à ce genre de superposition, justement. Ils gèrent très bien et nous apprennent aussi à le faire. Nous sommes là, tous ensemble, dans cette classe, en pleine journée, comme une bande d'astronautes sur la Lune. C'est une heure intense que nous partageons là, l'heure suivante aussi, le débat, l'écriture des cartes qu'on leur propose de remplir après pour nous livrer leurs premières impressions. Les questions, les réactions qui tentent de résoudre l'histoire, comme par exemple le retour obligé de Franck à la maison, la folie de la mère qui débarque dans cet état-là au collège, la sévérité de la prof de maths, ou sa corpulence d'ailleurs. Les avis se recoupent, les sons, les gestes, les phrases que les enfants gardent en mémoire sont souvent les mêmes. Mais petit à petit, les questions s'affinent. On se met à parler de prise de conscience, de remise en question, d'amour aussi. Et ça aussi, c'est étrange au collège. La question qu'on se pose et qu'ils se posent, c'est comment une pièce de théâtre a-t-elle pu sous leurs yeux coller autant à la réalité tout en la bouleversant ? Ben, c'est un véritable échange sur le principe des vases communicants. Nous, on leur a fait découvrir le théâtre. La plupart d'entre eux n'y sont jamais allés. Nous nous sommes faufilés dans leur intimité de classe. En une heure, la proximité a permis de leur faire partager les émotions du drame. Certains se sont laissés aller, d'autres ont résisté jusqu'au bout, mais quelles que soient les réactions, elles sont chargées de sens. En fait, une fois que le poids est nommé, il peut être plus léger. Eux, de leur côté, ils nous ont accueillis dans leur lieu de vie quotidienne, ils nous ont acceptés dans ce cadre-là. Leur marge de manœuvre est limitée, mais ils nous ont livré brut de pomme, le mode d'emploi et les codes en vigueur dans cet univers singulier. Et la parole n'est pas une marchandise, on ne la perd pas quand on la donne. Voilà, on parle la même langue dans tous les collèges du département, ça c'est ce qu'on peut se dire au bout de cette série de représentations déjà, mais il y a des nuances. En fait, on s'aperçoit que dans chaque collège, il y a une ambiance particulière. Et que malgré tout, chaque établissement se débat autour des mêmes questions qui nous agitent aussi dans le spectacle, l'apprentissage, l'échec, la violence, la différence, le respect, l'écoute, la communauté en gros. Voilà, nous on en rencontre une nouvelle chaque jour, et chaque jour on entend un nouveau dialecte.
À la fin du spectacle, la table du fond, on propose un jeu aux élèves. On leur distribue trois cartes et on leur demande d'écrire dessus une impression qui leur reste en mémoire. Donc c'est très vaste, c'est vraiment ce qu'ils ont ressenti pendant le spectacle. S'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, si ça leur fait penser à autre chose. On leur demande un dessin que leur évoque le spectacle. Et puis on leur demande aussi de faire une lettre à Franck, comme si ils connaissaient Franck ou ils connaissaient Sylvie, sa mère, ou les profs, et ils ont envie de leur écrire. Donc voilà, on en a quelques-unes qu'on va vous lire.
Chère madame, entre parenthèses, prof de maths, je vous envoie cette lettre pour savoir si vous pourriez m'aider en maths, car j'ai des lacunes et j'aimerais les combler. Vous avez l'air d'expliquer bien, mais parlez plus doucement, cela serait mieux. Merci d'avance.
Franck, tu es très mystérieux, tu devrais te montrer.
Franck, à 13 ans, on est encore le petit-fils à sa maman. Et il ne faut pas partir comme ça, sans prévenir surtout. Ta maman s'inquiète et elle a peur de te perdre. Trop tard, elle t'a perdu.
Sylvie, je vous souhaite une bonne chance pour parler à votre fils pour qu'il revienne chez vous. Et arrêtez de vous apitoyer sur votre sort.
À ta place, je rentrerai chez moi, car l'inquiétude d'une mère, ça se soigne. Comme ça, et aussi, c'est précieux. On a une seule mère et qu'une fois. C'est écrit comme ça. Hein.
Une autre lettre à une autre prof de maths. Madame, je vous le demande et je ne suis sûrement pas le seul. Je vous demande de parler moins vite et d'expliquer plus. Un inconnu.
Beaucoup d'émotions, de frissons. Cette pièce m'a beaucoup touché, car l'incompréhension entre la mère et Franck me rappelle des souvenirs, entre mes parents et moi. Il y a un moment qui m'a beaucoup touché, c'est le début de la pièce. Sylvie me faisait penser à moi, la dépression, plus d'espoir, les yeux remplis de larmes, quand mon père avait été gravement malade. Voilà, merci beaucoup pour ce moment de plaisir.
Franck, franchement, tu dois revenir. Ta mère s'inquiète vraiment et elle est partie se renseigner auprès de toi dans ton collège et elle s'est fait beaucoup remarquer, elle était fatiguée, elle s'est endormie dans une classe.
Et puis certains en profitent pour écrire à des gens qui sont plus proches d'eux, et notamment ça. Papa, j'aimerais que tu sois plus à mon écoute, que tu me comprennes, que tu partages plus de choses avec moi, que tu partages mes passions. Nous avons tant de choses à partager. Écoute-moi, je t'aime.
J'ai éprouvé une impression de tristesse et de malheur.
La solitude est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Franck, lire va peut-être te réconforter, mais rien ne vaut et ne remplacera tes parents.
Tu aurais bien dû venir voir le spectacle en ton nom. Tu as manqué une belle occasion de voir un beau spectacle. J'aurais aimé te voir parce que dans ce spectacle, les deux super acteurs et le metteur en scène ont beaucoup, beaucoup parlé de toi. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se voir. Bisous.
Vous jouez comme des rois. Sylvie pleure et rigole quand elle veut, mais c'est superbe. Et Monsieur Multiface, c'est vraiment bien joué.
Franck, ta mère est perdue sans toi. Elle a perdu son point de repère. Elle ne sait plus où elle est, ni qui elle est. Bien que tu veuilles rester loin d'elle, il faut que tu penses aussi à elle. Elle pourrait t'aider à devenir ce que tu souhaites. Alors donne-lui sa chance. Ton avenir peut se construire avec ta mère. Sans elle, ça pourrait te détruire.
Mon personnage préféré a été la prof de maths. Et je n'ai pas trop aimé le prof d'histoire car il est un peu philosophe. Bravo pour les déguisements.
Une lettre à François Cervantes. Le spectacle était bien, mais trop court. Il faudrait le faire plus long. Par exemple, mettre un prof qui s'apitoie aussi sur la mer. Ce serait bien que ça bouge plus.
J'ai bien aimé Mais sans plus, mais je préfère les scènes d'action au combat. Mais j'ai adoré quand Sylvie a poussé le concierge, c'était super.
Cher Franck, je comprends que tu aies un besoin d'indépendance. C'est l'adolescence. On est en train de le faire en SVT. Mais voilà, ne t'enferme pas tout seul. Fais attention avec ta mère. Pendant le spectacle, elle s'est mise dans un état. Mais ne la fuis pas. Ne reste pas seul avec tes livres. Je vais te laisser. Au revoir.
Un autre papa. Cher papa, c'est pour te dire que malgré tout ce que je dis et que je te fais croire, malgré tout ça, je t'aime. C'est normal, tu es mon père. J'ai beau tout dire à maman et rien à toi, mes sentiments ne sont pas partagés. Ils sont égaux. Excuse-moi.
Le geste que j'ai gardé en mémoire, c'est la jeune femme avec son talon cassé à la main.
Francky, je ne sais pas où tu peux être. Je comprends ce que tu ressens. La lecture est un moyen formidable de s'éloigner du quotidien. Mais elle n'est pas forcément un obstacle à la vie de tous les jours. Il faut que tu arrives à pouvoir coordonner la lecture et la vie. Allez, bon voyage et reviens vite.
Yo mec, pourquoi tu restes pas chez toi? Il y a des pâtes, un lit, la télé. Vas-y, retourne à ta home, with ta mother, qui a trop scary.
Cela m'a fait comprendre la situation des parents lorsque les enfants se mettent à grandir, qu'ils s'épanouissent et dès qu'ils partent de la maison, avec un petit whiz dessiné après.
Ce qu'il me reste en mémoire, c'est l'émotion que les acteurs ont donnée pour faire apprendre ce qu'il se passe dans les familles tristes. Attention, ce qui n'est pas mon cas. On apprécie ça et ce qu'ont montré les acteurs, ça m'a touché.
Salut Franck. Écoute, j'écris pas quand je connais pas, mais vu comme on t'a décrit, si t'existes, fais pas galérer ta mère.
Franck, une famille marche à plusieurs, je ne suis rien sans toi, je me meurs, ton père ne rentre même plus à la maison depuis un mois, je suis seule, Sylvie.
Quand il dessine le Porsche, le son de la chaussure contre le mur. J'avais envie de vous raconter comment j'en suis arrivé là, la rencontre avec la compagnie L'Entreprise. Et plutôt que de la raconter comme ça, c'est pas très facile pour moi, j'ai préféré l'écrire. Il y a une dizaine d'années, je jouais en Avignon et j'allais peu voir d'autres spectacles. Pourtant, une partie de la compagnie m'emmenèrent voir Masque de la compagnie L'Entreprise que je ne connaissais pas. La salle était chaude, les masques entrent, l'atmosphère glisse. Je suis absorbé par leur forme ronde, leur couleur chair et leurs yeux qui fixent l'horizon. Et puis je reçois le timbre des voix. Ça se passe dans une île et nous, les spectateurs, nous nous sentons comme la mer qui s'étend devant les yeux des masques. Je me sens loin, vidé, aussi large que l'eau, absent à moi-même, mais présent dans les éléments. À côté de moi est assis mon amour, également emporté au loin par le regard des masques. Je nous sens ensemble dans l'eau vive, dans l'horizon. Des années plus tard, nous apprenons que la compagnie et l'entreprise vient s'installer dans le sud. Encore une fois, mon amour m'emmène voir le sixième jour. Parmi les spectateurs, nous retrouvons Nicole, amie et complice. Le spectacle est un choc de plaisir, une jouissance à rire. Le vrai bon vieux rire qui relie toutes les cultures, toutes les espèces, toutes les époques. Le corps, la voix, le regard d'Arletty, ange clown chargé de nous expliquer la création du monde, redonne le sens le plus pur et immédiat au mot théâtre. Après la représentation, mon amour et Nicole veulent rencontrer la comédienne. Moi, je suis intimidé et je ne suis pas sûr de vouloir découvrir le visage qui se cache sous le phare d'Arletty. Mais Catherine Germain apparaît devant nous. C'est un autre choc, celui de la rencontre avec une belle âme, une belle personne. Nicole et mon amour écarquillent les yeux, manifestent leur enthousiasme et moi, je reste gêné, silencieux. Plus tard, nous découvrons le voyage de Pénazard et nous devenons des fans. Mon amour rêve de rencontrer un jour Catherine et François dans le travail. Puis, deux années s'écoulent, et mon amour entre dans une longue maladie et quitte notre monde. Il rejoint l'horizon sans moi et je dois continuer seul. Tout bascule, un changement radical s'annonce. Je dois survivre au choc. Comme toujours, dans des moments cruciaux, des événements qu'on n'attendait pas surviennent, comme pour dire « regarde de ce côté et accepte ». Une première année de deuil passe, puis j'apprends que Catherine Germain propose un stage sur le masque. Je suis porté par un double désir et une énergie aussi complexe que la douleur qui est installée en moi. Je participe à ce stage. Mon amour adorait Catherine Germain et je suis très ému d'être devant elle. Nous sommes deux devant elle. Et puis tout s'enchaîne et le chemin devient irréversible. François propose un atelier de travail nommé le garage. Les personnes ayant participé au stage de masque sont invitées à l'initier. Il est difficile de dire ce que j'y apprends, c'est immense. C'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais. C'est dur bien sûr, mais autant que de rester accroché à la terre. La présence de l'acteur rejoint la question de vivre. Je retrouve un vieux désir d'enfant de vouloir m'ouvrir à l'inconnu, à une part invisible, à une autre réalité qui agit et que souvent on étouffe. Les illusions tombent et c'est bien. Vivre, c'est apprendre à mourir. Jouer, c'est apprendre à disparaître. Au garage, nous abordons le réveil des créatures qui attendent, enfermées dans notre ego, et c'est très beau de se voir naître petit à petit les uns et les autres. Puis, après 3 années de garage, François me propose de travailler sur la table du fond pour une tournée dans les collèges. C'est un cadeau. J'ai peur, mais encore une fois, j'essaye de rester ouvert à ce qui arrive. De l'autre côté du miroir, mon amour sourit. Travailler avec François est aussi beau, difficile et troublant que de respirer sur terre. C'est le même voyage. On passe à temps fou à inventer des manières de vivre et des manières de jouer. On arrive encore à s'illusionner d'une fin heureuse au prix de 1000 épreuves. C'est si con, si clairement con. On ne résout ni angoisse ni peur en cherchant en permanence l'efficacité. Mais par contre, on peut peut-être apprendre à ne plus se poser de mauvaises questions. N'avons-nous pas tous, à un moment ou à un autre, expérimenté la surprise de voir un nœud se libérer, une porte s'ouvrir et la lumière entrer au moment où on s'y attendait pas, juste parce qu'on a été contraint, par la surcharge d'angoisse, à lâcher du lest et à laisser faire le mouvement de la vie? Dans le travail avec François, je ressens quelquefois qu'il suffit d'en faire le choix, d'abandonner toute illusion, de s'en remettre au mouvement vibratoire de toutes ces énergies qui nous traversent, et de travailler à juste garder les pavillons ouverts. La pensée voyage aussi librement qu'un regard qui se dépose dans un autre regard, puis dans un autre. Le travail de la table du fond a vraiment ressemblé à une gestation en apparence chaotique. Les idées étaient en désordre aussi bien dans le corps que dans l'esprit, et ce désordre était nécessaire pour réchauffer la matière qui permettait à la pensée de trouver un chemin. Ça paraît abstrait à dire, mais ça ne l'est pas. À un moment donné, quelque chose a vu la lumière, et le chemin du jeu a rejoint le chemin du souffle, du corps, de la vie. On peut être tout et rien à la fois. C'est dans ce vide vécu au moment présent que le flux de lumière se déverse par l'entonnoir. Et ça n'a rien de romantique. C'est comme vivre la mort d'un proche ou la naissance d'un bébé. C'est concret. Je n'ai pas appris cela à l'école, je crois. Voilà.
Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits poissons, les gros, les gros, les petits poissons, les petits poissons, les petits poissons, les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nage aussi bien que les gros.
Eh bien, en ce qui me concerne, l'entreprise, moi je l'ai rencontrée il y a une bonne dizaine d'années maintenant, en fait. Ah non, même plus. En fait, j'ai aussi vu Masque à Avignon en 1994. D'ailleurs, j'y ai aussi croisé Stéphane à l'occasion du festival de théâtre d'Avignon. Et ensuite, ce qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que j'ai vu le spectacle Le Sixième Jour avec Catherine Germain, donc Arletty. Ça a été un immense moment de bonheur, j'ai envie de dire, et j'ai encore la sensation de ce moment-là. Je crois que j'ai revu Le Sixième Jour après au moins 5 fois, et à chaque fois je l'ai redécouvert et j'ai pris autant de plaisir. J'ai aussi intégré le garage donc, en cours de route. J'ai entendu Stéphane en parler, j'ai entendu Cathy en parler. Et elle le sait que c'est à cause d'elle. Et en septembre donc 2004, j'ai commencé à travailler avec François après avoir fait un stage avec lui et un metteur en scène qui s'appelle Laurent Fréchuret. C'était un stage qui se déroulait à la Friche de la Belle de Mai en juillet, dont le thème était auteur, acteur, metteur en scène, un lien à réinventer. Et c'est donc la première fois que j'ai croisé François dans le travail. Et ben, j'ai envie de lire le texte en fait, qu'il a écrit sur moi, parce qu'il a écrit un texte sur chaque acteur, sur chaque personne qui était là dans le stage. Et voilà, celui qu'il a écrit pour moi, j'avoue que ça m'a un petit peu bouleversée. Je me suis sentie un peu transparente ce jour-là. Nicole, je n'ai pas confiance en vous. Je fais l'idiote pour cacher mon intelligence, pour ne pas être coupante. Si je ne fais pas la pitre, j'ai peur de devenir si peu. Une petite dame du Sud, une dame vive mais ordinaire, qui bouge vite devant tout le monde, qui parle fort, qui fait rire les autres, qui raconte des blagues. Mais il reste une méfiance des autres, une méfiance du texte, du public, des gens qui sont assis dans l'ombre. Je n'ai pas quitté vraiment ma famille, je ne me suis pas arrachée à ma vie première pour aller dans la famille de la poésie. Je ne me suis pas arrachée aux petites rues du village, aux façades des maisons, aux volets qui battent, aux phrases toutes faites échangées au coin des rues. Il y a, entre ma famille de sang et la famille de la poésie, une telle distance que je suis obligée de m'arracher de l'une pour aller vers l'autre. C'est un de mes drames personnels, cette béance. Quelque chose de moi est resté au village, sincère, simple, vive. Enfant, je vivais autant dans le village que dans mon corps, un peu à l'écart de ma vivacité. Je n'ai pas eu le temps de la lecture dans une famille avec son franc-parler. Dans cette famille, je n'étais pas une enfant malade, silencieuse. J'ai entendu les adultes parler politique, parler des riches, de ceux qui spéculaient en cachette. Je monte la voix et je fais de grands gestes pour qu'on ne s'approche pas trop près de moi. Dans ma famille, on ne regardait personne de près. J'ai un beau corps que je suis vite portée à cacher, comme les jeunes femmes qui doivent sortir dans la rue et qui craignent de se faire agresser. Je n'ose pas être belle. J'ai peur du silence que provoque la beauté. Je ne tiens pas le coup dans le silence. Assez vite, je pourrais pleurer. J'ai une partie de ma voix qui reste dans le nez. C'est comme un mauvais rhume qui persisterait. Dès que l'émotion arrive, ça remonte. J'ai des idées sur la justice qui restent éparpillées. Sur un plateau, je me sens comme une pauvre admise dans un monde de riches. Dès que les poètes meurent, ils sont capturés par les riches. À la mort de Rimbaud, les éditeurs ont été jusqu'à trafiquer ses lettres pour lui faire une autre vie, a posteriori. La colère monte vite.
Alors c'est une histoire de chemin qui mène ben, quelque part et qui m'ont mené vers François Cervantes, l'entreprise. La première... rencontre, c'était un titre de spectacle. On a marché sur la terre. J'ai pas vu le spectacle, mais j'ai adoré le titre et l'affiche. Et c'est des gens comme ça où on les met dans un coin de la tête et on se dit il faut absolument les rencontrer, ces gens-là. Et après, j'ai vu un camion, un camion chapiteau, installé devant les abattoirs à Marseille. C'était un beau projet, puisque c'était pour tourner, aller jouer dans les campagnes. Et à l'intérieur de ça, j'ai pris une claque. Mais une belle claque, puisque c'était j'ai découvert Catherine Germain. Enfin, Arletty d'abord, Catherine Germain, c'était plus tard. Voilà, qui rentre en scène pendant trois quarts d'heure et qui ne parle pas. On s'y fait vite, on se dit que c'est un spectacle d'un clown muet, mais bon, tout est tellement juste sur une manière d'entrer, une manière de quitter trois chapeaux, une lenteur pour faire 25 pas, pour arriver à son bureau, tout ça pour poser son cartable sur un bureau. Ça tient, c'est plein. Et à un moment, elle se met à parler et on assiste à un autre spectacle. Et on garde des choses en mémoire, comme maintenant, quand un téléphone sonne, ben, y a toujours une voix qui, à l'intérieur de moi qui fait «
Il y a le téléphone qui sonne ! Ouais, c'est le téléphone !»
Voilà. Donc voilà, ça c'était la première fois que je voyais la compagnie sur scène. Après j'ai vu Masque, où Catherine m'a beaucoup touché. Je garde surtout un gros souvenir de Catherine dans ce spectacle. Et puis après, la vie faisant son chemin, je me suis mis à faire de la lumière et de l'artifice, et donc à le faire savoir. Et j'ai rencontré François Cervantes, un monsieur mal rasé, le regard rieur, ingénieur dans sa tête, d'un peu tout ce qu'il fait, simplement. Et on a parlé, pas de la table du fond directement, mais de la vie, de la compagnie, de leur venue à Marseille, du pourquoi de leur installation à la Friche, de vouloir jouer 6 mois par an dans le même lieu, de vouloir que chacun emmène sa pharmacienne, sa boulangère au théâtre. Du coup, maintenant, j'emmène ma pharmacienne au théâtre. Je tiens au courant les gens des spectacles qui se jouent à la Friche, des gens que je croise. Et puis, le projet de la table du fond est venu. C'était une occasion de travailler sur ce qu'on appelle... au départ, c'était un petit spectacle, une petite forme. On n'est que 3, on joue dans les collèges. Le texte de la table du fond n'est pas petit. Enfin, il n'est pas petit, il n'est pas grand. Il est puissant, puisque pour les répétitions, on a joué ça devant des grands qui ont adoré, mais qui se posaient la question de... Mais que vont en penser les enfants? Est-ce que c'est possible? Et on n'a pas cherché à penser à la place des enfants. On a voulu le jouer devant les enfants. Et les enfants ont pris ça à un endroit, le bon, je ne sais pas. En tous les cas, les enfants sont touchés par l'histoire. Ils disent que ça peut arriver, pas forcément à eux. Mais que la fiction est possible. Voilà pour la table du fond. Et ben c'est un. Je l'ai croisé sur mon chemin. Je m'asseyais à cette table quand j'étais petit. Et je m'y rassois en ce moment avec un grand bonheur.
En entendant l'émission que Philippe Fauche a fait sur l'entreprise aussi, qui était la première émission qui est passée sur Radio Grenouille, je l'ai écoutée évidemment. J'ai entendu Philippe parler de François en disant qu'en fait il l'appelait l'accoucheur. Et ça m'a vraiment parlé, je me suis dit mais c'est exactement ça, c'est vrai que c'est un accoucheur pour de bon, de belles histoires, de souvenirs, d'un tas de choses. Il est capable d'emmener les gens chercher des choses loin, loin, loin et de les rendre tellement simples et tellement vivantes que c'est vrai que c'est une aventure humaine assez exceptionnelle et en même temps on a l'impression que voilà, c'est tellement à la portée et c'est tellement agréable de vivre comme ça. Le théâtre et la rencontre avec le public et que voilà, je trouve que vraiment le terme d'accoucheur lui sied à merveille.
Sylvie s'assoit dans la classe.
Il y a 18 ans, j'avais 18 ans, j'étais heureuse de quitter l'école et d'avancer vers l'avenir.
Un homme entre dans la classe, un dossier à la main, prêt à se retirer.
Madame.
Elle se lève, redevenue la petite fille qui allait à l'école.
Vous êtes professeur ?
Oui, madame, professeur d'histoire-géographie. Je viens de croiser Monsieur Granger.
Il vous a dit que Franck ne rentre plus à la maison ?
Oui.
Ça marche bien avec vous ?
Très bien.
Et vous avez une idée de la raison pour laquelle il ne rentre plus à la maison ?
Aucune.
À 13 ans, vous trouvez ça normal ?
Non, pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Il est heureux au collège ?
Oui, heureux, je crois.
Elle pleure.
Oh mon Dieu. À quoi voyez-vous qu'il est heureux ?
Il participe. Il a d'excellentes notes, il pose des questions en dehors des cours.
Comme quoi, par exemple?
Comme quoi?
Quel genre de questions? Quelle question, par exemple?
Quelle question? Je n'ai pas l'exemple pour l'instant, ça va me revenir.
Vous ne vous en souvenez pas, c'est ça?
Eh oui, c'est ça.
Mais par exemple, quel cours lui avez-vous donné?
Quel cours? Je leur ai donné la dernière fois.
Par exemple, racontez-moi le cours que vous lui avez fait la dernière fois que vous l'avez vu.
Oui.
Vous pouvez me raconter le cours que vous lui avez donné la dernière fois que vous l'avez vu?
Oui, c'était sur la Turquie.
Il pose sa chemise sur le bureau. Il joue avec les deux chaussures.
La particularité de la Turquie, c'est d'être à cheval sur deux continents, une partie en Europe et une autre en Asie.
Oui.
On considère ce pays comme européen. Quelles sont les nationalités européennes?
Vous voulez que je réponde?
Oui.
À mon âge, c'est ridicule.
Pas du tout.
Moi, je n'écoutais pas, je ne répondais pas, je ne comprenais pas. J'étais assise au fond de la classe, contre le mur. Je regardais le professeur, mon visage tremblait et je replongeais la tête vers le cahier. Il fallait toujours apprendre des choses que je ne savais pas. C'était comme si on m'apprenait des mauvaises nouvelles du matin au soir.
Je vais vous raconter une expérience que l'on fait sur des souris. On en plonge une dans l'eau, elle nage une heure, puis elle se noie. À ce moment-là, on la ressort quelques secondes et on la replonge.
Pff.
Combien de temps croyez-vous qu'elle tient?
Une minute?
6 heures. Vous voyez, il ne faut pas se décourager.
Il va au tableau et dessine rapidement une carte de l'Europe.
Les pays européens d'origine sont en majorité localisés autour de la mer Méditerranée. En France, il y a différentes catégories d'étrangers. Qu'est-ce que le regroupement familial? Un travailleur étranger qui fait venir femme et enfant? Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile?
Quelqu'un qui fuit son pays pour des raisons politiques?
Ou religieuses, avec des points de suspension pour indiquer qu'il peut y avoir d'autres raisons. Franck vous ressemble.
Ah?
Physiquement. La majorité des entrées sur le territoire est constituée par le regroupement familial.
Il tire un trait qui traverse la France.
Le pourcentage est plus élevé à l'est d'une ligne Le Havre-Marseille. Il y a une raison, les régions industrielles y sont plus nombreuses. Les étrangers ont des droits et des devoirs. Il ne faut pas oublier que le devoir a un caractère obligatoire et le droit a un caractère facultatif. L'étranger ne bénéficie pas du droit de vote.
Elle se lève et regarde par la fenêtre.
La pequille des frontières a litilé d'une poque millée, d'un pire manse qu'il est sur tout le Moyen-Orient. C'est l'incur man paru, nan disparu, méco mais qu'on peut templer dans la zone des pins de fin, frestétur reste un découvert.
Il pose la craie au tableau.
Vous n'écoutez plus.
Où est Franck?
Vous êtes inquiète.
Il fait beau aujourd'hui.
Elle se lève et se dirige vers la fenêtre.
Oui, la lumière change, la terre tourne, les populations se déplacent.
Le ciel est bleu, chargé de quelques nuages nacrés. On dirait des perles dans l'eau claire. Vous avez vu, monsieur, la fenêtre donne sur un terrain de football, d'un verre laiteux.
Oui. Quand les enfants jouent au ballon, vu d'ici, on dirait des bulles de lait. En hiver, ils n'y vont pas souvent.
Les grands arbres sont nus. Un hélicoptère passe au loin. Il va bientôt faire nuit. Franck ne me dit rien.
Il est en 4e A.
Oui.
Nous savons peu de choses sur leur vie, le programme est chargé.
Oui.
Mais il est passionnant. La 4e est la première grande classe. Ce qu'ils apprennent les aidera à vivre.
Ah.
À leur âge, ils ont une scolarité plus ou moins réussie. Puis ils entrent dans la vie active, puis ils vieillissent, puis ils meurent. Ils ont le temps, ils n'en sont qu'au début. Mais quand même, le sexe, la mort, les voyages, tout ça, ça commence. C'est déjà très fort à leur âge.
Elle va au bureau pour prendre un mouchoir dans son sac. Elle essuie les larmes, reste longtemps le visage dans le tissu. Il se racle la gorge, gêné. Elle relève les yeux et le regarde absente.
Qui êtes-vous?
Il sourit.
Oh, excusez-moi.
Non, non.
Oh, vous êtes le professeur de Franck, excusez-moi.
Calmez-vous.
Elle s'assoit.
Je ne me sens pas bien, ça ne va pas. J'ai peur de m'évanouir, vous voulez bien me tenir la main un moment?
Il lui tient la main, elle respire profondément.
Quand on est trop tendu, on ne se souvient plus de rien.
Ah bon?
Je dis toujours à mes élèves que ce qu'ils apprennent en classe assis sur une chaise, ils risquent de l'oublier quand ils seront debout, dehors.
Ah bon?
Lorsque le corps bouge, la mémoire bouge aussi.
Ah bon?
Ah oui. Quand on est contracté, on n'a pas la même mémoire que quand on est détendu.
Je ne comprends pas.
Si, par exemple, en classe, assis au chaud, ils apprennent ce qu'il y a dans les Pyrénées à 2000 mètres d'altitude, et qu'ensuite ils vont faire une marche dans les Pyrénées, dans le froid, en altitude, ils ne se souviendront plus de rien.
Alors ça ne sert à rien d'apprendre. On bouge tout le temps.
Eh bien, il faut bouger un peu moins. Et quand on bouge, pour ne pas oublier, il faut être détendu. Il faut apprendre détendu.
Elle retire sa main de celle du professeur.
Je le dis à chaque classe en début d'année.
Si on me demandait comment est François, je dirais que ce qu'il fait dire au prof d'histoire géo dans la table du fond. Je le connais peu. François est un garçon discret. Mais il est particulier. Comment dire ? Il n'a pas peur. C'est une certaine joie. Le silence me faisait rire. La pièce donne l'impression qu'elle est réaliste. C'est bizarre de voir les acteurs après les avoir vus jouer.
Ça m'a fait penser à la vie de tous les jours, comment on réagit avec nos parents, comment on leur parle. C'est vrai qu'à cet âge-là, on se referme beaucoup sur soi-même. On ne raconte rien à nos parents, on fait beaucoup de conneries.
Je trouve que c'est une certaine émotion. Franck et sa mère sont éloignés et ça donne mal au cœur. Mais c'est une vie d'ado. Cette pièce restera gravée dans ma tête car j'ai bien suivi l'histoire, que ça m'a beaucoup plu. Cette pièce m'a apporté beaucoup d'émotions.
Un son qui me reste en mémoire. Le bruit qu'ont fait les enfants dans les couloirs. On croirait que les enfants vont rentrer dans la salle en dehors du théâtre.
Sylvie, cela fait 3 jours que je te regarde. Je te suis, je t'évalue et j'ai remarqué que tu te faisais du mouron pour rien. Tu devrais te concentrer juste sur ton but qui est de retrouver ton fils et arrête de t'énerver pour une simple histoire de chaussures. D'ailleurs, je te conseille la colle UU Glue qui fixe très bien et qui est seulement, je le dis seulement, à 4,99€. Pas 5 ni 3 euros, mais 4,99€.
Cette scène me fait penser à une personne très proche, que j'aime aussi. Les larmes de la femme m'ont fait de la peine comme si cette histoire s'était vraiment passée. Et sa joie qui lui est venue, qu'en pensant à une scène profonde, on aurait dit qu'elle était mal dans sa peau.
Franck, franchement, t'es un bâtard. Je suis sûr que c'est toi qui as fait tomber le prof de musique dans le coma. T'as fait pleurer ta mère et puis elle comprend rien à la vie, alors rentre chez toi.
La littérature est comme une drogue. Au bout d'un certain moment, on devient accro. La tristesse d'une mère qui ne peut comprendre son fils.
Franck, rentre chez toi. Ta mère, elle fait peine.
Cette pièce est vraiment superbe, car cette pièce fait vraiment réaliste et j'ai l'impression qu'elle m'a soulagé un peu face à des problèmes. C'est super et émouvant, trop bien joué. C'est drôlement bien fait, donne envie de pleurer, en même temps que l'artiste. La relation entre la mère et son fils se passe peut-être ou pas souvent.
Cette pièce m'a fait penser au cas de beaucoup de familles. C'est la vie réelle. Cette pièce fait passer beaucoup d'émotions, elle m'a beaucoup plu. Elle montre aussi le rôle que joue l'école dans une famille. Au moment de l'adolescence, les jeunes sont seuls, personne ne les comprend. Même si les parents essayent, ils ne comprennent pas. Et c'est ça ce que cette pièce veut montrer, la solitude des jeunes entre l'amour de leurs parents.
C'était très marrant et très bien, comme de la tristesse ou de la joie. C'était très intéressant.
Il ne me reste rien en mémoire, puisque j'ai bougé. Non, ce n'est pas vrai, je garde un très bon souvenir. Merci beaucoup.
Au début, ça me faisait de la peine de voir la dame pleurer, car on se demandait pourquoi elle pleurait. Peut-être que c'était grave, peut-être pas. Et après, quand elle s'est mise à rire, j'ai ri. Enfin, c'est vraiment bien joué, et les émotions qu'éprouvait la dame, on les ressentait aussi.
Le son qui me reste en mémoire, c'est les pas de quelqu'un qui marchait dans les couloirs.
Franck, ta mère t'aime tant, elle t'aime. Elle te veut et veut te retrouver, te couvrir. Vous êtes une famille, reviens. C'est normal que tu partes, tu grandis, tu découvres et tu veux ta liberté. Mais comprends qu'il y a des personnes qui sont chères et qui ne veulent pas te perdre. Tu es un ado et tu grandis seul. Bye.
Une impression qui me reste en mémoire, l'évasion que peut apporter l'école à un enfant que l'on oublie. Les jeunes d'aujourd'hui ont l'impression que l'école est une sorte de prison, alors que je trouve que si l'on va à l'école de bonne humeur et détendue, on peut s'épanouir et découvrir de très belles choses.
Cher Franck, on a bien aimé entendre parler de toi dans cette pièce et on aurait aussi bien aimé que tu y participes.
L'impression qui me reste en mémoire est, 2 points, les mathématiques, c'est pas automatique.
Le concierge, comment il marche ?
Bon, il me semble quand même que ça vaut le coup d'expliquer très rapidement tout de même comment s'est fabriqué ce spectacle. En fait, François a écrit une nouvelle en 1980. Enfin, François a écrit un texte qui est devenu une nouvelle. En 1996, il est allé s'installer au fond d'une classe de quatrième dans un collège à Trappes, en région parisienne. Il a demandé à suivre les cours d'une classe de quatrième. Voilà, et ça a donné lieu à l'écriture de cette nouvelle. Il l'écrit en page de garde. « Cette année 1996, je suis allé à Trappes, au collège du village, en classe de 4e A. Je me suis assis à une table, au fond de la classe, avec les élèves. J'ai suivi les cours et j'ai écrit. J'ai voulu retourner à l'école, retraverser un pays d'enfance, un quartier de l'esprit. »
14h, cours de français. Nervosité des peupliers. Une élève de 3e passe prendre le cahier de présence oublié sur le bureau. En ressortant, elle m'aperçoit et dit à voix haute « Il est handicapé celui-là ». Je suis beaucoup plus âgé que les élèves. Je devrais déjà savoir tout ce qui se dit ici, tout sur l'Italie, l'Espagne, l'imparfait du subjonctif, les cocolites, James Bond et l'armée de Spartacus. Je devrais être dehors, à ma place, ne pas avoir à revenir là-dessus. Exercice de grammaire. Mettre une dizaine de phrases à la forme passive. Silence dans la classe. De la salle voisine, on entend le picotement de la craie contre le mur. Murmure, murmure, visage. Ils ont à nouveau changé en quelques semaines. Ils grandissent, ils changent de posture, de coiffure. C'est le mois de mai. L'ouverture du ciel pousse au voyage, le corps jaillit. Au mois de juin, ils se sépareront. Certains continueront ensemble jusqu'à la prochaine étape. Tribu nomade de la connaissance, qui traverse des langues vivantes, des langues mortes, enterrées dans la bouche, des paysages géométriques. C'est le mois de mai, on avance, chacun cherche sa place. L'exercice de grammaire est corrigé, le professeur rend les copies d'une dictée. Il s'agissait d'une épreuve de brevet, cela vous donnera une idée du chemin qu'il vous reste à parcourir d'ici l'an prochain. Les notes sont données. Brouhaha, l'orage éclate, personne n'est à l'abri. Les notes tombent, pluie, éclair, tonnerre. La moyenne de la classe est 6. Les élèves sont chahutés par un vent violent. L'ombre et la lumière se poursuivent, changent de place, tourbillonnent à la surface de la pièce. Les corps se penchent, se tournent, s'écrasent sur les chaises. Peu à peu, l'orage passe, les têtes se redressent. Il y en a un qui reste tassé, presque couché sur la table, étourdi. Nous allons corriger les fautes.
Voilà, c'est donc à partir de cette nouvelle que François a écrit en 1996 qu'on a commencé à travailler avec Stéphane, tous les trois, dans une salle où il faisait froid. En septembre, on a démarré avec des lectures de ce texte, et puis on s'est très vite aperçu que ce n'était pas une écriture théâtrale et que ce n'était pas possible de le jouer comme ça. Donc François nous a longuement interviewés, on s'est raconté, on lui a livré tous nos souvenirs de collégiens, d'écoliers, nos souvenirs d'apprentissage de théâtre aussi, toutes des bribes de parcours comme ça qui remontaient au fur et à mesure. Et puis, à partir de là, François nous a proposé un démarrage de texte, de fiction, avec ce personnage de Sylvie Salin qui débarque au collège avec une entorse à la cheville et un talon cassé et qui part à la recherche de son enfant, et plus symboliquement, en gros, de son enfance.
Travailler sur la table du fond remue inévitablement des émotions pas toujours confortables liées à notre propre scolarité. On passe quand même un bon morceau de vie, de la maternelle à la terminale, dans ce vaste système de l'éducation nationale. Je me souviens avoir attendu avec patience le moment où je pouvais dire « ciao ». Pourtant, s'y replonger pour la table du fond permet d'exulter des vieux fantômes. J'étais un élève dit « passable ». Je ne compte pas les appréciations du genre « peut mieux faire » et « toujours dans la lune ». Élève très moyen, l'école c'était pas vraiment un grand délire pour moi. J'avais un mal fou à ingurgiter les informations et ma timidité et quasi autiste m'enfermait encore plus dans un monde imaginaire qui compliquait la relation à l'autre. C'était discret mais peu repérable. Pourtant, je crois que si on m'avait simplement tendu un peu la main, avec un regard un peu plus bienveillant, je serais peut-être rentré dans le monde de l'école plus sereinement. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours accroché la vie par des vrais rapports humains et l'approche d'une certaine philosophie. même tout petit. Au début, il n'y avait pas de mots, mais de longues pensées et la tête ouverte dans l'espace. Mais plus j'avançais dans l'école, plus ma tête se refermait et les mots que j'entendais autour de moi ne correspondaient à aucune réalité. Au primaire, quelque chose est encore possible avec un instinct qu'on a toute l'année. On peut à peu près le sentir, créer un lien. Ceci dit, ça ne m'est arrivé qu'une fois, au CM1, je crois. Ma maîtresse s'évertuait à ne pas m'enfoncer dans mon autisme. Aujourd'hui, je pourrais la remercier chaleureusement. Mais par la suite, dans le secondaire, le morcellement des matières, les rendez-vous hachés avec tous ces profs m'ont complètement coupé d'une sensation d'unité avec le monde. Je n'ai rien compris à rien et n'arrivais pas à m'intéresser. Les profs me faisaient plutôt penser à des marionnettes qu'à autre chose. Ils étaient broyés dans un système lourd et établi et nous entraînaient avec eux. On ne m'a rien dit sur l'essentiel à part occulter la nature de la vie et de la mort. Quand la mort est arrivée dans ma vie, j'étais désarmé. Personne ne m'avait rien dit sur rien. C'était un tabou, une vérité cachée. Il a fallu faire le chemin tout seul. Moi, j'aurais rêvé de recevoir un enseignement complet, autant philosophique que scientifique, historique, artistique et spirituel. Connaître le secret de l'esprit et du verbe et de la nature. Enfant, je pensais ne pas être né à la bonne époque, le bon pays, le bon corps et même peut-être la bonne planète. Bref. Au milieu de ce fatras qui m'éloignait de moi-même et que je vivais comme une grande violence, j'ai rencontré le théâtre. Il y a un dieu pour les timides. À 11 ans, donc, j'ai commencé à suivre un enseignement en art dramatique en parallèle avec ma scolarité. C'était l'aventure dont j'avais besoin pour m'ouvrir et, comme dit le prof de français dans la table du fond, naître à soi-même. Ce n'est qu'à travers le langage de mon maître en théâtre et plus tard avec la découverte des fortes amitiés puis de l'amour que j'ai pu commencer à comprendre pourquoi j'étais resté sur Terre. Mais les profs m'ont aidé d'une autre manière. Je me souviens d'une séance de travail au cours de théâtre. Sur la première scène de L'Avare de Molière, je devais jouer Harpagon. Notre professeur de théâtre nous avait demandé de prendre un modèle, le modèle de quelqu'un que nous connaissons dans la vie courante. J'avais imité mon prof d'anglais, un homme extrêmement distrait, au débit de paroles hachées, une voix blanche, un regard paumé et un physique longiligne. Je me souviens d'un plaisir extrême et d'un fou rire monumental de la part de ma prof de théâtre. Harpagon, le plus souvent représenté aigre et méchant, devenait un homme distrait, impressionnant de maladresse, victime d'une obsession de l'oubli. Le frottement de mon prof d'anglais avec le texte de Molière donnait à Harpagon une dangerosité déconcertante. Et puis il y a un autre souvenir fixé. Notre prof nous avait guidés dans un long exercice de concentration où nous devions naître de la terre et grandir en tige de blé. Je me souviens d'avoir ressenti la chaleur du soleil qui fait pousser, le souffle et le bruit du vent. Je me souviens être devenu une tige de blé vraiment. C'est une expérience sensorielle très nette et qui revient dans la table du fond. Mon maître de théâtre était une énergie pure de la nature. Elle circulait entre la terre et l'esprit avec une liberté totale. Elle nous entraînait dans un monde que nous n'aurions jamais rencontré à l'école ou à la maison. On était loin de la petite activité du mercredi. Elle formait des acteurs et ne se freinait pas. Elle nous guidait sur le chemin vertigineux de la quête du jeu. La froideur de l'enseignement scolaire était remplacée par la chaleur d'un feu sacré. Elle m'a appris le goût d'être libre alors que dans le monde on continuait à tout blinder, séparer, catégoriser, enfermer. On continuait à nous apprendre à prendre possession de cette terre, à la servir, à se croire supérieur, les maîtres du monde, l'espèce la plus importante. Quel mépris, quelle honte. On nous a coupés de nos mémoires ancestrales, vidés de notre énergie première. On nous apprend que c'est mal de vieillir et intolérable de mourir. Au cours de théâtre, les vieux, les fous, les malades, les animaux, les plantes, les esprits, les morts avaient leur place. À l'école, je ne crois pas. Moi, je voulais apprendre à être de la même matière que ma planète, dans son prolongement, son aura, son énergie, son rythme, ni plus ni moins, accepter d'être ici. Voilà ce que j'aurais aimé voulu apprendre.
She was beautiful. She sang the letter.
Travailler et jouer ce spectacle, La Table du Fond, ça m'a moi aussi beaucoup bousculée. Mais je pense que ça m'a aussi réconciliée avec cette période de ma vie qui se résumait dans mon souvenir, en gros, par un grand moment de creux où je crois avoir pas mal dérivé et souvent lâché la rive. Si en jouant ce spectacle et en rencontrant le public comme on le rencontre actuellement dans les collèges, si on peut réconcilier les gens avec eux-mêmes, ou au moins avec un tout petit bout d'eux-mêmes, je crois que ce sera un morceau de gagné.
Voilà l'histoire de La Table du Fond, racontée par Nicole, Stéphane et moi-même.
Christophe.
Bon, là maintenant, la tournée nous rappelle, puisqu'on va continuer. On a encore une dizaine de jours et une dizaine de collèges à les rencontrer. Et voilà, et faire vivre cette tournée. Alors en tournée, il y a des choses qui arrivent et on s'y attend pas. Donc simplement, un jour, une dame vous dit non, ne tourne pas là, parce que là, ne tourne pas à gauche, parce que là, on va à Fourques.
Mais qu'est-ce qui me
et après, Fourques, c'est invivable. Voilà. Voilà, tout ça parce qu'on n'a pas tourné à gauche.
C'était Nicole Choucroune, Stéphane Pastor et Christophe Bruyas. Le prochain bivouac sur la grenouille signé par François Cervantes et la compagnie L'Entreprise, ce sera le mardi 18 avril à 15h.